la sphère neuro. Célia Morès sur Nutri Radio.
Indémodable, Célia Morès, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous savez pourquoi je dis indémodable ?
Non, mais vous allez me le dire.
Parce que vous êtes souvent habillé en noir et du coup le noir, ça ne se démode jamais.
Effectivement, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi non seulement le noir ne se démode jamais, c'est classe, ça mincit en plus et ça passe partout, que ce soit pour des activités professionnelles, entre amis, etc. Donc,
Attention, n'allez pas trop loin dans les divulgations, ce que vous pourriez nous dire. Bon, en tout cas, on est ravis de vous retrouver hein, chaque vendredi pour explorer le fonctionnement de nos neurones, de notre cerveau. On est donc prêt cette fois-ci pour parler de food addiction ou de eating addiction, entre mythe et réalité. C'est le titre de cette émission que vous nous avez proposé. Alors, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que l'addiction à la nourriture ?
Alors, effectivement, en fait, c'est vrai qu'au niveau de l'addiction à la nourriture, on en parle beaucoup. On entend beaucoup de choses. On parle beaucoup d'addiction au sucre. Et moi, en tant que scientifique, je me suis trouvée face à des personnes. Alors, certes, il y a les influenceurs, etc., mais aussi même des scientifiques qui utilisaient les mots, qui n'étaient pas d'accord, qui se battaient. Et je me suis dit, il faut faire une émission dessus pour faire comprendre en fait finalement ce que c'est. Alors, l'addiction, pourquoi est-ce qu'on parle d'addiction à la nourriture ? Moi, ce que j'aime, c'est chez les anglo-saxons, ils différencient la food addiction, addiction à la nourriture, et eating addiction, c'est-à-dire l'addiction au fait de manger. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'addiction à la nourriture ? Tout simplement parce qu'on a retrouvé des critères similaires aux addictions aux substances. On le sait que l'addiction aux substances, c'est l'envie irrépressible de consommer la substance. Le fait de continuer à consommer la substance malgré des conséquences négatives, que ce soit sur la sphère professionnelle, sur la sphère santé, sur la sphère sociale, sur la sphère psychique. Ça va être le fait de consommer plus de produits que prévu, de ne pas pouvoir s'en passer, de vouloir éprouver de nouveau ce plaisir, mais aussi de calmer ses tensions internes. Et il y a aussi des phénomènes, on le sait, de tolérance, de devoir augmenter effectivement la consommation, mais aussi de sevrage avec certaines caractéristiques qu'il peut y avoir selon la substance. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la nourriture, il a été montré exactement les mêmes critères. Les chercheurs ont montré exactement les mêmes critères d'addiction. Le fait du désir, le fait d'avoir le craving, cette frénésie alimentaire, le fait d'avoir des symptômes de sevrage, de la recherche du produit absolument et de la poursuite du comportement malgré les conséquences négatives. Alors, par exemple, la tolérance. La tolérance, ça va se marquer comment pour la nourriture ? Ça va se marquer par une augmentation des doses prises, mais aussi la tolérance à la satiété. Pourquoi ? Parce que plus on mange plus, l'estomac va finalement s'agrandir, va permettre qu'on en mette plus dedans et donc on va être de plus en plus tolérant à la satiété. La satiété va être retardée. On va avoir aussi au niveau du sevrage un mal-être, une anxiété, des états émotionnels, des tensions physiques, mais aussi finalement des problèmes psychique, on va être mal, on va culpabiliser. On va aussi, enfin, les personnes qui vont être addictes à la nourriture, ça va être quoi ? De consommer une plus grande quantité de nourriture ou alors pendant des périodes un peu plus longues que prévu. Au départ, on mangeait quelques carrés de chocolat ou on mangeait qu'une portion du plat, puis au fur et à mesure, on va augmenter les portions ou on va augmenter la prise alimentaire elle-même. Les personnes vont essayer de réduire, comme les personnes addictes à une substance, de réduire cette consommation sans pouvoir y arriver, parce qu'elles vont se sentir trop mal, elles vont être obligées de refaire le comportement pour pouvoir avoir une sorte de bien-être. Sinon, elles vont, pas culpabiliser, mais justement être anxieuses, etc., etc. Donc, c'est ces tentatives-là qui vont aussi échouer. Il va y avoir aussi, chez certaines personnes, un temps excessif passé à rechercher la nourriture, pour récupérer la nourriture. Donc, c'est vraiment une recherche, avoir une obstination pour la nourriture, quitte parfois à refuser des sorties, justement pour pouvoir rechercher cette nourriture et pour pouvoir, évidemment, faire ces crises. Et évidemment, ça va être de continuer malgré les conséquences négatives. Donc là, ça va se traduire par quoi ? Certes, les augmentations de l'anxiété, mais aussi du mal-être psychologique, mais aussi tous les problèmes métaboliques que l'on peut voir avec les maladies que l'on retrouve, les maladies du siècle, comme on les appelle, notamment ben, le diabète, l'obésité, etc., etc. Donc, c'est en ça que ça va être déjà, ça va se traduire. Et effectivement, on sait que ça va être, ces comportements vont être plutôt tournés vers un type d'alimentation que sont évidemment les aliments palatables, c'est-à-dire les aliments riches en graisse et en sucre. Pourquoi ? Ben parce que ce sont ces aliments-là qui sont le plus référencés lorsque les personnes se référencient elles-mêmes en tant qu'addictes à la nourriture. On a une échelle, la Yale Food Addiction Scale, qui permet effectivement de mesurer les comportements anormaux, d'évaluer les comportements anormaux vis-à-vis de la nourriture. Donc, cette échelle a été validée. Donc, on voit qu'il y a des gens qui sont addicts à la nourriture, une certaine partie de la population. Et quand on demande à ces personnes-là pour quel type d'aliments vous l'êtes, effectivement, quel type d'aliment vous pose problème, ce n'est jamais des brocolis vapeur qui sont cités, hein, pour la faire courte, mais c'est plutôt les desserts, les sucreries, les pizzas, les crêpes, les hamburgers, le chocolat, etc., pour ce type d'aliment. D'où le fait qu'il y aurait une food addiction. Et moi, je crois à l'addiction au sucre, entre guillemets, mais à l'addiction plutôt au sucre raffiné, aux produits ultra transformés, à ce type de produit, et non pas au sucre blanc tel qu'on pourrait parfois le concevoir, en mettant toujours, et là je veux vraiment faire un focus dessus, le sucre c'est pas nocif, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, c'est plutôt la quantité qui va être consommée qui peut être nocive, c'est ça qui va poser problème, mais il ne faut pas non plus le diaboliser, ce n'est pas le terme de mon propos, bien au contraire, c'est en termes de quantité, mais on sait que les aliments qui vont poser problème, évidemment, ce sont ceux qui, et on va expliquer pourquoi en seconde partie d'émission, ce qui se passe au niveau du cerveau, ce sont ceux finalement qui vont procurer le plus de plaisir et qui sont généralement, malheureusement pour nous, les plus caloriques.
Ah oui, malheureusement pour nous, les plus caloriques, les plus transformés. Bref, en tout cas, merci hein, d'avoir un peu réhabilité le sucre.
Mais non, c'est avec plaisir parce que souvent on entend addiction au sucre. C'est pas un terme que j'aime. Ça, on veut parler d'ailleurs plutôt de dépendance, moi, que d'addiction, je pense. Mais ça, ce n'est que mon humble avis. Mais effectivement, je veux pas diaboliser le sucre. C'est pas ça. C'est de faire attention et qu'effectivement, on devient accro à ces aliments-là. Mais c'est pas le sucre en tant que tel et c'est pas l'héroïne. Hein. Faut pas non plus tout diaboliser.
On nous parle toujours de ce fameux test, vous savez, entre c'est quoi des rats qui choisissaient les sucres plutôt que la cocaïne. Vous avez entendu parler de cette expérience ?
Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on a dit que le sucre, c'était encore plus puissant que les drogues. Alors, il faut savoir aussi que ça a été fait chez les rats. Les rats, ce ne sont pas des hommes. Et que les rats, en fait, n'avaient été à jeun, n'avaient pas mangé. Dans mon souvenir, c'était un petit peu ça l'étude. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, effectivement, mangé. Donc, en gros, c'est un petit peu comme nous. Je pense que lorsqu'on a fait une nuit de sommeil et qu'on se lève le matin, bah, forcément, on peut avoir faim. Et éventuellement, on peut peut-être préférer quelque chose qui va nous donner de l'énergie. Dingue, voilà, c'est toujours un petit peu délicat en plus. Hein, voilà.
Oui, oh là là, la perfidie des études, par exemple, c'est comme si on disait, bon, je sais pas, on vous donne pas à boire pendant 4 jours, et puis d'un côté, il y a de l'eau, de l'autre côté, de la cocaïne, vous allez sur l'eau, vous dites, ah, attention, l'eau est tellement addictive, plus forte que la cocaïne. Oh là là, c'est...
Alors après, voilà, c'est ça. Après, bon, peut-être qu'effectivement, ils ont préféré, mais peut-être qu'effectivement, déjà, ben, tout ce qui est sucré au goût, c'est certainement meilleur que la cocaïne. À partir du moment où on n'est pas cocaïnomane, c'est vrai que ben, je pense que quand même, le choix pour exporter naturellement et peut-être plus vers quelque chose de sucré que vers une drogue qui n'a probablement pas de goût, en fait. Ouais, c'est plutôt ça.
On relativise quand même beaucoup ces études, hein, finalement, ce que vous venez de me dire. Là, ça va me faire... j'entends toujours plein d'études. Il faut toujours savoir le contexte, vraiment tout analyser pour bien comprendre un petit peu ce qui se dit et traduire les résultats de manière correcte. Célia, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
J'ai envie de dire, la Célia Morès est arrivée, je vous sens en pleine forme, je vous sens, je sais pas, il y a un truc qui a changé. Qu'est-ce qui se passe, Célia ?
Bah écoutez, il fait beau en ce moment.
Ah d'accord, ça nous semble
voilà. Okay. Il fait beau, donc ça fait plaisir et moi le soleil me met de bonne humeur, voilà. Donc même qu'il fasse froid ou pas, mais le soleil me met de bonne humeur, donc tout va bien. Voilà, tant qu'il fait pas gris, qu'il pleut pas, c'est vrai que c'est quand même sympathique ce temps-là.
On l'entend. Revenez sur vos terres niçoises, vous allez voir que le soleil après ça vous fait ni chaud ni froid. Non, je plaisante, c'est toujours très agréable. Et puis c'est lié à mon reste, on rappelle, vous êtes à Paris. Tous les auditeurs qui nous écoutent aussi sont un peu éparpillés dans toute la France et puis même dans le monde, car on nous écoute. Aussi aux États-Unis d'ailleurs. Donc je salue les amis francophones qui écoutent Nutri Radio depuis les États-Unis. Si vous avez des nouveautés, des innovations dans les pays dans lesquels vous vivez, n'hésitez pas à nous les transmettre. Un petit mail sur le site de nutriradio.fr dans la partie contact. Voilà, envoyez-nous tout ce qui concerne la nutrition, les expériences, les nouveautés, que ce soit la nutrition pour la peau, pour l'organisme, n'importe quoi. Alors, nutrition, tout est nutrition. Donc partagez-nous un petit peu ce qui fait avancer votre vie sur place. On continue notre petite exploration de la food addiction ou le eating addiction avec cette fois-ci les mécanismes neurobiologiques et physiologiques qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, c'est très particulier au niveau de pour la nourriture, notamment par rapport aux autres addictions. On sait que lorsqu'on est addict à quelque chose, que ce soit une substance ou un comportement, évidemment, on va avoir une libération de dopamine. Ce qui est logique, puisque la dopamine est libérée, je le rappelle, lorsqu'on prend du plaisir à faire quelque chose, ça va nous permettre d'être motivés à refaire le comportement donc qui nous a donné du plaisir, et on a appris que ce comportement nous donnait du plaisir, donc on sait qu'on peut le refaire pour éprouver ce plaisir-là. Donc, évidemment, lorsqu'on va avoir une addiction à la nourriture, lorsqu'on va manger ces aliments, notamment palatables, parce que finalement, ce sont ceux-là qui posent le plus de problèmes pour l'addiction à la nourriture, en termes de food addiction et de produits alimentaires, on verra en troisième partie par rapport à l'eating addiction et le comportement finalement plutôt alimentaire, il va y avoir libération de dopamine. Donc, ça, c'est un fait. Ce qui va se passer aussi, c'est que cette libération de dopamine va être associée à une libération d'opioïdes endogènes, à nos endorphines effectivement endogènes. Pourquoi ? Ben parce que notamment, il est dit dans les articles du moins, que les produits riches en graisse, en sucre, enfin, notamment les produits sucrés, le sucre, se fixeraient sur les récepteurs aux opioïdes, donc à nos opioïdes endogènes, ce qui provoquerait finalement une diminution de l'activité des neurones GABAergiques, qui, je le rappelle, sont des neurones qui permettent de diminuer l'activité cérébrale et donc de diminuer la libération de dopamine pour la rendre à l'équilibre. Donc, de fait, il y a plus de libération de dopamine. Donc déjà, dopamine qui va libérer encore plus. Des études ont montré que lorsqu'on regardait des images de nourriture, on va dire, palatable justement, la dopamine déchargeait beaucoup plus, ou lorsqu'on en mangeait d'ailleurs, mais même en regardant des images, la dopamine déchargeait beaucoup plus, donc il y avait beaucoup plus de libération de dopamine pour les aliments palatables que pour des brocolis vapeur. Et cela est d'autant plus vrai chez les personnes atteintes de surpoids, qui se suralimentent, qui sont encore plus sensibles, mais on le verra, en dernière partie d'émission pour différencier le comportement de la food addiction elle-même, qui sont encore plus sensibles à ce type d'aliment. Donc là, déjà, c'est un premier point. Il va se passer quoi ? Le problème, c'est que lorsqu'on a une autre addiction, on peut s'en passer. On peut se passer de l'alcool, on peut se passer, on peut s'en passer pour la santé. On n'est pas obligé de boire de l'alcool. Ce n'est pas une obligation. En revanche, manger est une obligation. Sinon, évidemment, si on ne mange pas, on meurt. Donc, il va se passer quoi ? C'est qu'il y a un lien entre finalement la régulation physiologique de la prise alimentaire, notre balance faim-satiété physiologique avec nos hormones de la faim et de satiété, et notre système hédonique qui est impliqué dans les comportements alimentaires. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va y avoir, on va avoir faim, par exemple à l'heure du repas, vers l'heure de midi, généralement on a notre hormone de la faim, la gréline notamment, qui décharge parce qu'il est temps de s'alimenter, on a faim. Cette gréline, c'est notre faim physiologique, mais elle va aussi impacter le système effectivement de récompense, là où il y a libération de dopamine, notamment au niveau de l'aire tegmentale ventrale où on retrouve les corps cellulaires des neurones dopaminergiques. Et ça va faire quoi ? Ça va permettre de provoquer la libération de dopamine. C'est-à-dire que la gréline va provoquer la libération de dopamine, donc l'hormone de la faim provoque la libération de dopamine pour nous permettre d'être motivés pour aller rechercher la nourriture et non pas se dire j'ai faim mais je lève pas, excusez-moi le terme, le cul de ma chaise pour aller trouver ma nourriture. Donc ça va nous permettre d'être motivés pour aller trouver donc cette nourriture-là, au point d'ailleurs que lorsqu'on injecte dans l'aire tegmentale ventrale notamment ou éventuellement en intraveineuse, donc justement chez l'homme, de la gréline, même s'il vient de manger, s'il est rassasié et qu'on leur montre des photos d'aliments palatables, ça va déclencher l'envie de manger, ça va déclencher la faim et même le fait de prendre cet aliment-là. D'autre part, ce qui va se passer, c'est que lorsque notre dopamine, parce qu'on est motivé à nous alimenter, on va s'alimenter, il y a libération donc de dopamine de l'aire tegmentale ventrale dans le noyau accumbens. Ce noyau accumbens qui est dédié finalement au plaisir, à la valeur hédonique du comportement, va lui-même envoyer des informations à une structure, à un noyau de notre hypothalamus, l'hypothalamus latéral, qui est le centre de la faim, on va dire, historique, là où il y a des neurones orexigènes, pour faire quoi ? Pour lever l'inhibition sur ces neurones orexigènes. C'est-à-dire que l'hormone de la faim permet qu'il y ait libération de dopamine pour qu'on soit motivé à nous nourrir, et à se nourrir. Et lorsqu'il y a libération de dopamine, effectivement, dans ce noyau accumbens, puisqu'on est motivé à se nourrir, lève l'inhibition sur les neurones noroxygènes, permettant la prise alimentaire. Donc, on voit bien le lien entre les deux. Et ce qui va se passer aussi, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir aussi tout ce qui va être perception sensorielle. C'est-à-dire que la vue de certains aliments, l'odeur de certains aliments vont nous donner envie de manger et activer le système de digestion, activer certaines hormones impliquées dans la balance faim-satiété. Donc, ça va se répercuter. Et c'est vrai que ce sont ces aliments qui ont le plus d'odeur sympathique, qui sont à la vue le plus joli. Donc, un gâteau au chocolat sera probablement, au niveau de la perception sensorielle, on l'a vu, plus de libération de dopamine, etc., etc. Ça va faire cet effet boule de neige. Et donc, de fait, c'est en ça que ça va être compliqué. Voilà ce qui va se passer au niveau donc, de ce cerveau. Mais en plus, on va avoir un problème au niveau du cortex. C'est-à-dire que notre cortex préfrontal, qui est impliqué dans la prise de décision et dans l'évaluation des conséquences à long terme, notamment enfin, à court, moyen et long terme, de notre comportement, donc je consomme ou je ne consomme pas, lorsqu'il va y avoir une addiction, notamment quelle qu'elle soit, mais notamment une addiction à la nourriture, il va y avoir au niveau de ce cortex préfrontal une diminution des récepteurs à dopamine, les numéros 2, on les appelle les D2. Or, puisqu'il va y avoir une réduction des récepteurs à dopamine à ce niveau-là, les personnes vont avoir tendance à être plus réceptifs, à la récompense immédiate, c'est-à-dire avoir un comportement un peu plus impulsif, être réceptif à la récompense immédiate et préférer cette récompense immédiate, je me fais plaisir tout de suite et maintenant, plutôt que d'analyser les conséquences de la consommation et de voir finalement qu'il peut y avoir des conséquences négatives à long terme. Hein, c'est un petit peu comme un enfant qui veut tout et maintenant et tout de suite et qui fait sa crise de nerfs. Ça va être un petit peu ça, parce que justement, on va manquer au niveau de ce cortex-là, deux récepteurs D2 qui vont permettre d'analyser correctement la situation. Voilà ce qui peut se passer au niveau cérébral, d'où la complexité, effectivement, de ces addictions liées à la nourriture, qui fait que ce n'est pas aussi simple que ça. Et je voudrais rajouter, ce n'est pas une bonne solution de ce qui a pu être fait il y a quelques années, de dire qu'il faut interdire tous ces aliments palatables, plus de sucre, plus de pizza, plus d'hamburger, ni rien, parce que ça va finalement être contre-productif, ça va être pire, et que les personnes après peuvent se jeter sur ces aliments-là et pour le coup, finalement, ne plus gérer du tout. Donc, le mieux, c'est effectivement d'aller voir des diététiciens nutritionnistes, des micronutritionnistes qui vont aider ces personnes à réguler peut-être le comportement en toujours consommant ces aliments, mais en quantité plus raisonnable pour les faire retravailler sur leur faim, leur satiété, leur envie de manger et sur peut-être ce qui les pousse à avoir ce type d'addiction, puisqu'on sait que lorsqu'il y a des dépressions, lorsqu'il y a effectivement ce type de choses, des traumatismes que l'on a pu vivre, etc., ça peut effectivement impacter ses comportements alimentaires comme pour tout type d'addiction.
D'ailleurs, on dit souvent qu'il faut écouter son corps, mais alors à partir de quel moment il nous trompe ou on l'a mal habitué ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que on fait la différence entre un comportement comme ça qui est peut-être tronqué et mauvais comportement et puis juste un peu cette nourriture dont on a besoin?
Alors, c'est toujours très compliqué parce qu'évidemment, en fait, normalement, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'on consomme certains aliments, on les consomme parce que finalement, notre corps en a besoin. Si un jour, on a envie de poisson et un autre jour de viande, c'est pas pour rien. C'est pas juste comme ça, c'est normalement signé. Le problème, c'est que souvent, parce qu'on est dans un monde qui va trop vite, parce qu'on ne fait pas attention à ses sensations, on n'est pas centré sur ses sensations, on ne distingue plus la faim de l'envie de manger. Donc, c'est vrai que ça va être de se poser la question, est-ce que j'ai réellement faim? Quels sont les symptômes de la faim, en fait? Se dire, est-ce que effectivement j'ai la tête qui tourne? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis vraiment en hypoglycémie? Est-ce que je suis irritable? Parce qu'il y a des symptômes comme ça de la faim physiologique, de dire, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ma prise alimentaire? Est-ce que j'ai faim ou est-ce que c'est juste une envie? Est-ce que c'est un appel? Et pourquoi est-ce que j'ai cette envie-là? Alors, ça peut être difficile, ça peut être plus ou moins facile parce qu'il suffit qu'on se pose les bonnes questions. Il ne suffit pas, attention, maintenant, si on a envie de quelque chose, même si on n'a pas faim physiologiquement, mais que c'est une envie que, parce qu'on est passé devant une pâtisserie, ce gâteau nous a donné envie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le manger. Mais le manger en toute connaissance de cause pour essayer, évidemment, de pallier le problème de « je vais faire une compulsion ». Après, il peut justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, d'aller voir parfois des professionnels de santé, des diététiciens, des nutritionnistes, diététiste, enfin, micronutritionniste, etc., qui vont pouvoir aider la personne à se recentrer avec des exercices sur ses sensations de faim et de satiété. Ça peut être un travail, effectivement, au long cours. Mais d'ailleurs, à ce propos, dans une des prochaines émissions que je compte proposer sur Nutri Radio, justement, c'est manger en pleine conscience pour aider les personnes, finalement, quels sont les bienfaits de manger en pleine conscience, aider les personnes à se recentrer sur leurs sensations et à faire la différence, justement, entre les différentes faims pour pouvoir ensuite prendre, finalement, analyser la situation et prendre une décision en toute connaissance de cause. Mais parfois, c'est vrai que sans se faire aider, ça peut être compliqué lorsqu'on a perdu ces signaux parce qu'on ne les a jamais écoutés. Et ben, de fait, évidemment, ça a des répercussions plus ou moins longues après pour revenir à son écoute, en fait. C'est surtout ça le problème.
Ça, c'est certain. On a hâte d'écouter cette émission. De toute façon, on va se retrouver déjà la semaine prochaine.
Totalement.
La semaine prochaine, on va parler de...
Eh bien, on va parler des benzodiazépines, psychotropes benzodiazépines, et puis la semaine d'après, ça sera sur les opiacés.
Très bien, je pense que j'ai mélangé un peu tout le programme, n'est-ce pas, Célia, vous me confirmez ?
C'est pas grave, de toute façon, peu importe l'ordre des émissions, tout l'essentiel, c'est qu'on puisse les diffuser et en discuter avec nos auditeurs.
Bien, bah merci beaucoup. En tout cas, donc la semaine prochaine, parce que moi, je me suis remis les pinceaux de fou et je m'en suis rendu compte, vous savez, dès le début de l'émission, comme vous m'avez rien dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est pro ? Elle enchaîne, boum, le sujet. Bravo, Célia, merci pour votre souplesse. C'est vraiment, hein, quand le soleil est là, on sent que, boum, c'est pas la même personne, même si vous êtes toujours très souple et toujours très pro pour nous délivrer ces contenus que vous allez retrouver d'ailleurs en podcast tout de suite maintenant sur nutriradio.fr. Si vous venez d'arriver et que vous voulez... voilà, refaire l'intégralité de cette émission sans interruption, eh bien, c'est maintenant dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Célia, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite.
La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio.